La ville de Tarbes a une forte identité militaire. Elle est dotée de deux régiments de l'armée de terre, le 1er hussard parachutiste et le 35e régiment d'artillerie parachutiste. Afin de comprendre la place des militaires dans la capitale de la Bigorre et de mieux connaître leur mission, nous sommes heureux d'accueillir dans ces studios de la cathédrale de Tarbes le lieutenant-colonel Philippe Laurency. Bonjour colonel.
Bonjour madame.
Vous êtes le commandant en second, Philippe Laurency, du 1er régiment de hussard parachutiste. Quelle est sa fonction exactement ?
La fonction du 1er régiment de hussards parachutistes, oui. Alors c'est un régiment qui est un régiment de la brigade parachutiste stationné à Toulouse. Ce régiment, c'est un peu les yeux et le poing de la brigade parachutiste. C'est-à-dire que notre mission de cavalier parachutiste, c'est de mener loin devant, dans une zone entre la ligne de front et 30 km, des missions de reconnaissance et de renseignement, et aussi d'apporter une capacité anti-char à la brigade parachutiste.
Les yeux et le poing. Quelles sont les qualités requises pour être un bon hussard parachutiste ?
Alors je pense qu'il faut allier à la fois les qualités d'un hussard et les qualités d'un parachutiste. Alors les qualités d'un parachutiste, c'est l'audace, c'est un peu le goût du baroud, c'est la capacité à combattre seul, isolé, pendant 3 jours, puisque quand on saute en parachute, on saute avec ce qu'on a dans son sac. Donc on se bat avec nos moyens.
Avec un sac qui peut faire combien de kilos ?
Un sac qui fait à peu près une quarantaine de kilos. Voilà, mais sur ce coup, c'est en gros 3 jours de combat. Et donc il faut avoir une certaine résilience. Et puis la qualité du hussard, c'est de voir loin, d'être autonome. Et ça, c'est particulièrement important dans le métier, dans ce qu'on demande à nos hommes jusqu'au plus jeune hussard.
Vous parlez d'autonomie, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que un hussard peut être envoyé seul sur un terrain ou en reconnaissance par exemple ?
Alors non, le hussard ne sera jamais seul, mais l'unité de base c'est le peloton pour nous. Un peloton c'est 3 engins avec un canon et 3 petits véhicules blindés. Et donc ces 6 véhicules vont partir loin devant. Les petits véhicules blindés vont un peu servir de chien de chasse. Et le chasseur c'est derrière... Ce sont les 3 engins avec des canons qui vont justement arrêter l'ennemi ou en tout cas remplir leur mission.
Vous avez fêté l'été dernier le 300e anniversaire du régiment de Tarbes. Quelles ont été les grandes étapes de l'histoire dans l'histoire de ce régiment ?
Ou alors le régiment, c'est un vieux régiment.
Une longue histoire.
Voilà, c'est une vieille dame qui est très fière de son passé. Alors ça commence sous l'Ancien Régime, je vais essayer de pas être trop long. Ça commence sous l'Ancien Régime. En fait, le comte Ladislas de Bercheny va fuir les Habsbourg qui ont envahi la Hongrie. Il va se réfugier avec de nombreux nobles hongrois en France, protégés par Louis XIV au départ. Et puis sous la Régence, donc ce comte va se battre dans les armées de Louis XIV et va proposer aux régents de monter un régiment. Parce qu'à l'époque, on montait un régiment. Et donc, il obtient l'autorisation du régent. Il va aller chercher des nobles hongrois réfugiés à Constantinople et ramener ces nobles et quelques hongrois pour monter un régiment de hussards. À l'époque, le roi de France cherche à avoir une nouvelle cavalerie, puisqu'on était avec une chevalerie qui se transformait. On avait besoin d'avoir une cavalerie moderne qui était capable de répondre sous le feu des canons et des balles à des missions de reconnaissance. Et donc, on cherchait un combat un peu particulier pour la cavalerie. Et donc, les hussards vont répondre parfaitement à cette attente. Arrivera la Révolution française. La Révolution française, le régiment va s'illustrer à Jemappes particulièrement et à Valmy. Et ensuite, toute l'épopée napoléonienne, où le régiment est de toutes les campagnes napoléoniennes et sera particulièrement remarqué par l'empereur. Ensuite, naturellement, ce sont
première
toutes les campagnes...
Première et deuxième guerre mondiale.
Comment ?
Première
Alors,
et deux.
Oui, il y a.
Oui, pardon, j'ai avancé trop vite.
Il y a l'approche, pardon, de l'Afrique avec sous le Second Empire, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et tous les conflits modernes.
Et alors, par exemple, pour une des deux guerres mondiales, vous auriez un exemple de bataille qui aurait été particulièrement marquante pour ce premier régiment de hussards parachutistes ?
Alors, je vais. Vous parlez plus particulièrement de la campagne de 40, parce que c'est souvent une campagne qui est dévoyée et où on ne souligne pas assez les combats qu'il y a eu et sont des combats héroïques. Et le régiment s'est illustré, notamment au Mont-Dieu, où il a arrêté une division allemande pendant 3 jours.
Oui, grand. Et alors après ces deux guerres mondiales, où est-ce que le régiment s'est
Alors il y a eu l'Indochine, mais en fait ce sont des détachements de volontaires qui sont partis en Indochine, et surtout la guerre d'Algérie, où le régiment a été très largement engagé. Et puis après, il y a eu le Liban, les Balkans, l'Afghanistan, le Mali. Voilà. Tous les conflits modernes auxquels les armées françaises ont participé depuis, en gros, les années 60.
Alors, nous arrivons justement à ces conflits modernes. Aujourd'hui, le premier régiment de hussards parachutistes est déployé sur des théâtres d'opérations extérieures, en Afrique et au Moyen-Orient. Quelle est alors sa mission ?
Alors, là, actuellement, on est déployé au Liban. Au Liban, c'est une mission qui est au sein de l'ONU. Donc, on est vraiment là pour faire de la force de présence. Et on arme la FCR, c'est la Force Command Reserve, qui est en fait l'unité de réserve de l'ONU sur zone au sud Liban. Ensuite, on a des troupes déployées en bande sahélo-saharienne, au Mali et au Niger. Là, actuellement, ils démontent le dispositif Barkhane pour se réarticuler. Et enfin, on a des troupes à Djibouti. C'est une force française présente à Djibouti depuis toujours, donc on assure la présence française dans ce territoire africain.
Si nous prenons l'exemple du Niger, un régiment comme le vôtre arrive avec combien de personnes et que fait-il exactement sur place ?
Alors c'est très variable. Actuellement, je crois que c'est à peu près 4500 militaires qui participent à l'opération Barkhane. C'est à la fois au Tchad, c'est au Niger, c'est au Burkina Faso et au Mali, bien entendu. Pour un régiment, globalement, on appelle ça un groupement tactique interarmes et c'est à peu près 850-900 personnes.
Elles sont sur ce terrain. Le déploiement du régiment au Mali, on va pas faire de politique, mais les actions qui permettent de pacifier la situation dans ce pays, quelles ont été ces actions ?
Alors, on fait beaucoup de patrouilles. On mène des opérations aussi contre les groupes terroristes. C'est bien de contenir, et c'est bien l'objectif de l'opération Barkhane, ça l'a toujours été, c'est de contenir le terrorisme sur le territoire africain et pour éviter que ça déborde sur le territoire français.
Mmh. Si tu as tout perdu, souviens-toi qu'il te reste l'honneur. Telle est la devise actuelle de votre régiment. Pour des jeunes qui s'engagent à 20 ans au premier régiment de hussards parachutistes, qu'est-ce que c'est l'honneur ?
Écoutez, je vais vous citer un exemple très simple. D'abord, pour répondre à votre question précisément, l'honneur, c'est quand même aller au bout de sa mission. Voilà. C'est aller jusqu'à ce quoi nous pousse notre engagement. Voilà. Donc, l'exemple, ce sont trois de nos hussards qui ont été blessés grièvement il y a 2 ans au Mali. J'ai rencontré encore un de ces blessés hier, puisqu'on accueillait des jeunes engagés, et ils venaient témoigner, donner au major de la promotion de jeunes recrues le cadeau que l'amicale fait de manière traditionnelle. Et c'est le brigadier Kalef qui a été grièvement blessé, qui est lourdement handicapé. Et donc, je pense que défendre l'honneur, c'est aller jusqu'au bout, jusqu'au prix du sang. Et même pour nos jeunes, ça a beaucoup de sens. Voilà, donc je pense que ce sont des valeurs qui sont encore entretenues.
Et pour vous, qui avez 33 ans de carrière militaire, est-ce que cette notion de l'honneur, elle a évolué tout au long de votre parcours militaire ?
Non, parce que ce qui m'a animé pendant 33 ans, c'est le fait de servir. Et pour moi, ça reste intact.
Servir. Les hussards de Bercheny, comme vous vous appelez aussi, viendront en soutien des aumôniers militaires pour le bon déroulement du pèlerinage militaire international. Il a lieu très prochainement. Il est organisé par le diocèse des armées et se déroulera donc à Lourdes les 13, 14 et 15 mai. Il rassemble habituellement des militaires d'une quarantaine de pays. Dans ce climat actuel de guerre, quel sens ce pèlerinage prend particulièrement ?
Je pense qu'il est bon d'avoir une transcendance. Alors nous, c'est avant tout une transcendance laïque, puisque le but, c'est bien, là encore, de développer le sens du service. On a des aumôniers de toutes les religions au sein des armées. On a de tout temps été nourris par les aumôniers catholiques. Et donc, le pèlerinage militaire international, c'est important. Et le régiment va y participer à la fois pour le montage du camp et aussi pour assurer la sécurité des pèlerins.
Et dans ce contexte de guerre, est-ce qu'il y a une mission particulière ou une prière particulière qui sera, par exemple, faite pour la paix? Est-ce que c'est une des missions de ce pèlerinage ou pas forcément?
Bah, je le souhaite. On est avant tout là pour défendre notre pays. Le but n'est pas de promouvoir la guerre, bien au contraire. Et puis nous, en tant que parachutistes, on a une prière qui nous anime particulièrement, qui est la prière du para. C'est un aspirant en Indochine qu'il avait écrite et on la chante et ça nous nourrit assez fréquemment.
Alors, je ne vais pas vous la demander de nous la chanter, mais éventuellement vous auriez quelques mots, enfin vous pourriez nous la dire, cette prière.
Alors,
pour terminer.
C'est « Mon Dieu, donne-moi la force et la foi. Donne-moi, je demande ni... alors attendez.
C'est la question piège, pardon. Hein. Si vous voulez la chanter.
Non, mais je vais retrouver les mots, vous inquiétez pas, je vais retrouver les mots.
Merci beaucoup. Je voulais quand même revenir sur cette mission que vous avez. Jean-Paul II vous disait des militaires qu'ils sont sentinelles de la paix. C'est pour vous, quand vous faites la guerre, en fait, vous travaillez pour la paix.
Bien évidemment. Oui. L'objectif majeur dans une guerre, c'est d'abord et avant tout de défendre une population. Et donc, on ne peut pas défendre une population sans avoir derrière l'idée de défendre la paix. Ça me paraît, enfin, ça coule de source.
Ça coule de source. Vous êtes envoyé en mission sentinelle pour surveiller et pour sécuriser les lieux publics.
Oui, oui. Oui, au mois d'août, on va déployer quasiment un escadron, c'est-à-dire une unité du régiment à Sentinelle. C'est très fréquent et c'est tout à fait normal.
Et ce sont les jeunes qui y vont ou pas forcément?
Alors, ce sont les jeunes, bien évidemment, puisque un escadron, c'est l'unité de base de notre régiment et c'est armé de jeunes en majorité. Et puis, on a aussi un renfort de la réserve. Au régiment, on a la chance de bénéficier d'un escadron de réserve qui est fort à peu près de 200 personnes. Donc là, ce sont vraiment des étudiants, des civils qui viennent pour un temps donné, une petite période de 15 jours, d'un mois, nous renforcer. Et ça nous aide bien.
Merci beaucoup, colonel Philippe Laurency, d'être venu ce matin à la sacristie de la cathédrale de Tarbes pour cette première matinée du Tridium Pascal.
Merci beaucoup.